Radio Kapi.
Le journal grâce à Hamzati. La situation reste tendue à Moutao, dans les territoires de Niragongo Nord Kivu, marqué par la recrudescence des accrochages dans le parc de Virunga. Selon plusieurs sources locales, des rebelles du M23 ont mené une opération de ratissage dans la zone, détruisant les maisons à la recherche des présumés Wazalendo. Comment améliorer la gouvernance minière en République démocratique du Congo? C'est la question au centre d'un atelier de réflexion ouvert ce mardi à Kinshasa entre acteurs étatiques et non étatiques. Objectif visé, mettre en place des stratégies devant renforcer la lutte contre les minerais du sang. En Bushman Yokata Oriental, plus de 11 000 dollars américains ont été récoltés en faveur de la femme de Katanda et Olivia Nashanapa, assassinée l'année dernière. C'était au cours d'une campagne de collecte des fonds. Nous en parlons avec notre invité, l'abbé recteur de l'université officielle de Mbujimayi, Apollinaire Tshibaka Tshikongo. Bonjour à tous. Au Nord Kivu, la situation reste tendue ce mardi dans la localité de Moutao, groupement Kibati, territoire de Niragongo. C'est à la lisière du parc national de Virunga. Selon des sources locales, les rebelles du M23 ont mené une opération de ratissage dans la zone, détruisant les maisons des civils à la recherche des présumés Wazalendo. Plus de détails avec vous, Jordan Blaise Shindad Kambala.
Depuis quelques semaines, des accrochages opposent presque chaque jour les patrouilles des rebelles M23 aux groupes armés VDP Wazalendo qui écument toujours la région dans cette partie sud du parc national des Virunga, indiquent les sources locales. Toute la partie nord des groupements Rusayu, Kibati et Muja, qui sont frontaliers, est affectée par des combats récurrents, parfois en profondeur dans cette aire protégée. Certains défenseurs environnementaux affirme que cette zone devenue le bastion des groupes Wazalendo et des quelques militaires FARDC échappe à tout contrôle de l'ICCN. Les affrontements entre ces groupes et les rebelles du M23 insécurisent de plus en plus la population civile qui n'accède plus à ces champs dans le parc alors que les récoltes sont pillées par les combattants.
Toujours au Nord Kivu, dans les territoires de Beni, 4 civils ont été tués dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF dans la nuit de lundi à ce mardi à Kokola, un village du groupement des Bambou Bakaskisiki. Selon la société civile locale qui livre l'information, toutes les victimes ont été tuées à l'arme blanche. La même source indique que des boutiques et kiosques ont été également pillés par les assaillants. La société civile recommande à l'armée d'organiser des patrouilles de combat dans cette région où les rebelles des ADF circulent librement selon elle. Et en Ituri, des miliciens identifiés à ceux de la Codeco ont attaqué la nuit dernière le centre hospitalier de Blena de Ngote, à 33 km de Mahagi Centre. Selon des sources concordantes, un militaire des FARDC a été tué et un autre grièvement blessé par les assaillants. Les mêmes sources ajoutent que l'ordre a été vite rétabli grâce à l'intervention des soldats des FARDC. Des malades qui se trouvaient dans cette structure sanitaire ainsi que des habitants des villages environnants ont déserté les milieux pour se mettre à l'abri. Le récit des faits avec Jean-Claude Lokidi.
C'est peu avant 21h locales qu'un groupe d'hommes armés identifiés aux éléments de la milice Codeco prend d'assaut ce centre de santé où étaient internés des malades. Après avoir faussé l'entrée principale, ils accèdent finalement aux installations de cette structure médicale. Un médecin trouvé en plein travail aura la vie sauve après s'être caché dans le plafond du bâtiment. C'est ce dernier qui était recherché par les assaillants, affirme un acteur de la société civile locale. Et c'est ce même médecin qui a alerté les militaires des FARDC pour l'intervention, ajoute-t-il. À l'arrivée des FARDC, les assaillants ouvrent le feu et s'en suivra un accrochage de plusieurs minutes au cours duquel un militaire touché par balle va succomber à ses blessures. Un deuxième soldat blessé est admis aux soins dans une structure médicale de la place. Pris de panique, les habitants de Ngote restent terrés dans leur maison. Ceux de Zengo et Pabong ont pris la direction de Nyoka à 7 km. C'est le troisième incursion des miliciens de la Codeco en l'espace de 2 semaines, s'inquiète le chef de chefferie des Pandoro, Bounia Jean-Claude Loki, Dile Radio Kapi.
Et puis, l'église anglicane du Congo diocèse de Bukavu vole secours des déplacés de guerre vivant dans des familles d'accueil dans la commune de Bagira à Bukavu. En tout, 250 ménages qui ont abandonné tous leurs biens chez eux à Calais, Bunyakiri, Kalonge et Katana. Ils reçoivent des vivres et non-vivres constitués du riz, des haricots, de l'huile, des casseroles et de beaucoup d'autres diversités. Élise Gavira.
Chaque ménage reçoit au moins une quantité de 25 kg de riz, de farine de maïs, 5 kg de haricots, de l'huile végétale, mais aussi du sel et du savon, des casseroles et des assiettes. L'église anglicane de Bukavu tire les moyens auprès de ses partenaires de l'église sœur d'Allemagne, mais une autre partie vient de la collecte des fidèles diocésains. Monseigneur Bahati Boulibousané.
L'église anglicane prêche l'évangile holistique. Nous avons pensé à pouvoir assister les personnes déplacées pendant ces temps de crise que nous vivons. Et nous avons sensibilisé nos fidèles de nos différentes paroisses. Le peu que nous avons reçu, nous sommes allés assister d'abord les déplacés qui sont venus de Katana, de Bunyakiri, Kalehe et Kalonge, qui sont dans la commune de Bagira.
Vu le nombre élevé des déplacés qui sont dispersés dans la ville de Bukavu, l'église anglicane ne compte pas se limiter à la seule commune de Bagira. Elle envisage d'étendre ses actions dans les deux autres communes, Kadutu et Ibanda.
Merci à vous, Élise Kavira. Plaider pour la reconnaissance juridique et l'égalité des genres dans le travail domestique au Nord Kivu, c'est l'objectif d'une journée de réflexion et de plaidoyer organisée ce mardi par l'Union des femmes domestiques du Congo, UFEDOC, à Beni. Selon les organisateurs, cette activité vise à mobiliser les autorités pour une réforme légale, inclusive et basée sur le genre pour la protection et la promotion des travailleurs domestiques de la RDC, majoritairement des femmes. Lisa Bissimoua, psychologue au sein de l'UFEDOC, explique au micro de Marc Marofimbo.
Ce dernier temps, la femme domestique au Congo, elle est vraiment victime de plusieurs abus ainsi que des violences dans les ménages parce que plus elle n'est pas considérée par les membres de la maison, on ne respecte pas ses heures de travail, elle est considérée comme une chose, c'est ses droits, sa personne ne sont pas connus vraiment par les employeurs. Après cette activité, nous nous attendons à ce que les autorités nous aident à accomplir la vision de l'UFEDOC qui est de voir les travailleurs domestiques jouir pleinement de leurs droits. Donc, que la RDC ratifie la convention 189 et 190 de l'Organisation internationale du travail. Loin de ça, qu'ils puissent nous aider aussi dans la sensibilisation, parce qu'ils sont des autorités, ils ont un pouvoir sur la communauté. Une fois qu'ils vont prendre conscience que ces personnes aident, ils vont aussi communiquer à leurs subalternes et ça sera déjà une grande sensibilisation, c'est de la communauté des Béni.
Nous l'avons dit dans les titres. Comment améliorer la gouvernance minière en République démocratique du Congo? Cette question est au centre d'un atelier de réflexion qui se tient du 15 au 17 avril ici à Kinshasa entre acteurs étatiques et non étatiques. Ce forum de 3 jours vise à peaufiner des stratégies devant renforcer la lutte contre les minerais du sang. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka insiste sur le mariage entre la société civile et l'État pour réussir ses paris. Les explications avec Blaise Dongala Mayanda.
Venu de plusieurs provinces du pays, les participants à ces dialogues analysent les impacts de l'exploitation minière illégale dans le contexte des conflits en RDC et dans la région des Grands Lacs. À travers les échanges et débats, ils se proposent de favoriser une exploitation minière légale, durable et responsable en vue de contribuer à la stabilité et au développement en RDC. Le coordonnateur national du comité des crises pour la paix et la sécurité en RDC regrette que les richesses minières attirent plus de problèmes que des solutions aux Congolais. Patient Bachombe.
Les minerais qui devraient financer notre développement servent de carburant au réseau des violences. Les richesses naturelles censées être des instruments de prospérité partagée sont devenues des moteurs d'un chaos.
Pour élever ces défis, le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, assure avoir déjà lancé un vaste chantier de réformes pour assainir les secteurs miniers du pays.
Les avancées notables ont été réalisées en matière de transparence, de traçabilité, de gouvernance et de responsabilisation des acteurs.
Pour sa part, la première ministre indique par ailleurs avoir fait de la gouvernance minière un objet de débat citoyen. La tenue de ce forum de 3 jours bénéficie de l'appui technique et financier de la coopération allemande, de l'ambassade des Pays-Bas et de plusieurs autres organisations non gouvernementales.
Blaise Ndongala Mayanda. Par ailleurs, les professeurs des universités, les corps scientifiques et les étudiants de l'université de Lubumbashi doivent s'approprier la lutte contre la désinformation. L'appel est de la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Thérèse Sombo était en face d'eux ce lundi au cours d'une séance d'éveil patriotique qu'elle a animée dans l'amphithéâtre Kalabamutabusha de l'université de Lubumbashi. On l'écoute dans cet extrait choisi par Jean Gandou.
Cher professeur, la science et la recherche sont nos armes contre l'oppression et la manipulation. Chaque professeur a un rôle stratégique dans l'éveil patriotique et la défense des valeurs républicaines. Vous devez avoir le devoir de documenter et de transmettre la vérité historique sur l'agression que subit notre pays. Face à la guerre, notre responsabilité est d'éduquer, d'éclairer et de préparer la jeunesse à bâtir une nation forte. Aux membres du corps scientifique, vous avez le devoir de produire des données fiables pour contrer la désinformation. Chaque découverte et analyse doit servir à éclairer l'opinion et à renforcer notre souveraineté. Étudiantes et étudiants, vous êtes l'avenir de notre pays. Vous êtes la première ligne de défense intellectuelle et patriotique de la nation. Vous avez un rôle dans la lutte contre la désinformation et l'intoxication médiatique.
Au Kassai-Oriental, parlons de la suspension ce lundi à Mbujimayi par les gouverneurs des provinces des travaux de lotissement de l'ECGTK, École secondaire et technique de Lankanchi. Cette décision a été prise à l'issue de la réunion du Conseil provincial de sécurité extraordinaire tenue au gouvernorat des provinces. Déjà, une délégation dépêchée par le secrétariat général du ministère des Affaires foncières séjourne à Mbujimayi pour faire la cartographie des terrains de la société minière de Bakwanga Mibar, Esther Dalafina.
Le lotissement du terrain de l'SGTK est suspendu depuis ce lundi. Ce terrain est loti depuis près de 6 mois par les autochtones appelés Bakwanga. Explication avec Maître Pascal Ilunga, ministre provincial de la Justice et porte-parole du gouvernement.
Toutes les forces publiques sont requises pour remettre de l'ordre à cet endroit-là. Alors tout celui qui va venir à l'encontre de ce qui a été décidé aujourd'hui ne va que subir la rigueur de la loi.
Depuis ce matin, aucune équipe des maçons ou des architectes n'est visible. La société civile salue cette décision étant donné que le terrain spolié est devenu le théâtre des affrontements entre les élèves de l'SGTK et quelques autochtones responsables de ces lotissements. La semaine dernière, des jeeps de la police ont été déployés à cet endroit. D'après certaines indiscrétions, ces jeeps de la police ont été déployés pour sécuriser les maçons. D'autres, par contre, indiquent qu'ils ont été réquisitionnés pour paré à toute éventualité. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, l'ex-président Macky Sall pourrait bientôt être poursuivi pour haute trahison. Une proposition de résolution en ce sens vient d'être déposée à l'Assemblée nationale par un député du parti au pouvoir, Patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF. Le député PASTEF Guy Marius Sagna a introduit cette proposition de mise en accusation de l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, pour haute trahison en se basant sur le rapport de la Cour des comptes qui a révélé des chiffres falsifiés de la dette publique et du déficit budgétaire avec une dette caché de 7 milliards de dollars sous l'administration de l'ancien chef de l'État de 2012 à 2024.
L'invité.
Nous sommes au Kassai-Oriental. Clôture ce week-end à Mbujimayi de la campagne de collecte des fonds en faveur de la femme de Katanda et en mémoire de Olivia Nachanapa, agent de l'université officielle de Mbujimayi, OIM, assassinée l'année dernière lors d'un drame conjugal. Plus de 11 000 dollars américains ont été collectés au cours de cette opération par l'université officielle de Mbujimayi, OIM. D'après le recteur de l'OIM, ces fonds seront remis à la Caritas pour l'achat des vivres et non-vivres à distribuer aux bénéficiaires. Professeur abbé-recteur Apollinaire Chibaka Chikongo, recteur de l'université officielle de Mbujimayi, s'entretient ici avec Esther Ndalafina.
Bonjour, professeur abbé-recteur Chibaka Chikongo.
Bonjour, madame Esther Ndalafina.
Qu'est-ce qui a poussé l'université officielle de Mbujimayi à mener une campagne de collecte de fonds pour les femmes de Katanda et en mémoire de Olivia Nachanapa, qui était morte, donc elle était agent ici à l'IOM?
Bon, c'est la deuxième année qu'une telle campagne est menée dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars. Alors, l'année passée, déjà les femmes, les étudiantes, donc travailleuses, chercheuses et enseignantes de l'Université officielle de Mbujimayi, avaient décidé, au lieu de fêter, comme ça se fait traditionnellement, un uniforme, défilé, discours, repas, qu'on récolte plutôt de l'argent pour assister des femmes en situation beaucoup plus difficile. L'année passée, ça a été fait avec les femmes de Goma, donc de l'Est du Congo. Et cette année, on s'est dit, on le fait pour les femmes de Katanda, qui est l'une des communautés soumises à un cycle de violence qui dure depuis des décennies. Alors, on s'est dit, on fait la collecte de fonds pour aider un peu ces femmes-là, mais en même temps, attirer l'attention de la société, des responsables sur ce drame auquel il faut mettre fin, mais aussi pousser notre université à sortir des auditoires, de bibliothèques, des laboratoires, pour s'occuper aussi des problèmes réels, parce que l'université est là pour ça.
Vous avez récolté plus de 10 000 dollars. Que voulez-vous qu'on remette concrètement aux bénéficiaires? L'argent, les habits, les ustensiles de cuisine ou la ration alimentaire?
Jusque samedi, on a récolté exactement 11 619 dollars. Mais il y a d'autres personnes qui ont promis de contribuer. Cet argent, on le remettra à Caritas Mbujimayi. L'année passée, l'argent avait été remis à Caritas Goma, donc qui est une structure crédible présente sur terrain qui connaît la zone et comment atteindre les personnes. C'est la même chose ici. Caritas est présente à Katanda à travers les structures de l'Église catholique et donc ils connaissent bien les communautés, ils savent ce qu'ils peuvent faire. Notre souhait, c'est qu'avec cette petite aide, on puisse peut-être acheter du maïs ou ce que Caritas va estimer nécessaire pour distribuer aux familles, aux femmes les plus affectées. On décidera ensemble avec Caritas Mbujimayi, mais ça ne sera pas la distribution de l'argent, plutôt la distribution des biens en nature. Peut-être qu'on pourra aussi écouter la communauté des bénéficiaires pour savoir ce qu'elles veulent.
Pensez-vous que cette assistance peut résoudre les problèmes auxquels font face les habitants de Katanda, surtout les femmes?
Non, nous devons être assez modestes. Nous n'allons résoudre aucun problème à Katanda. Je pense que notre démarche, c'est résoudre le problème à nous. Avec ça, on a résolu un problème d'indifférence. C'est une somme modeste. Elle ne va pas résoudre ni les problèmes matériels, ni les problèmes même de paix. Nous avons résolu chez nous un problème. Moins d'indifférence, plus d'engagement dans la société.
L'université a-t-elle déjà analysé les causes profondes des conflits récurrents dans les territoires de Katanda et proposé des pistes de solutions à court, à moyen et à long terme?
C'est l'un des défis que j'ai justement lancé à l'université dans mon discours de circonstance. Inviter l'université à savoir que la charité, oui, mais Katanda n'a pas besoin d'aumône. Katanda a besoin de paix. Et comme université, nous avons le devoir de livrer des études historiques, sociologiques, culturelles, tout à fait objectives pour dire d'où vient ce problème, qui l'entretient et comment y mettre fin. Ces études existent, elles ont déjà été faites, mais l'université peut les renouveler dans les circonstances actuelles parce que des conflits comme ça deviennent en fait des héritages. Ça passe de génération en génération. On devient héritier d'un conflit. Donc là, c'est un grand défi que nous avons lancé à l'université. Au-delà de la charité, au-delà de l'aumône, la réflexion, l'étude scientifique.
Oui, étant donné qu'il y a toujours rebondissement de conflits dans les territoires de Katanda, que proposez-vous pour sécuriser l'assistance qui provient de l'IOM?
Je pense que toute proportion gardée, écoutez, là-bas, les gens ne vivent pas avec des machettes à main tout le temps. La Caritas, l'Église catholique, le diocèse, travaille à Katanda. C'est pourquoi nous nous servons donc de l'expertise d'une structure présente et agissante à Katanda.
Professeur Abbé, recteur Tshibaka Tshikongo, merci.
Merci beaucoup, Esther Ndalafina.
Voilà, notre invité était avec Esther Ndalafina depuis Mbujimayi au Kassai Oriental. C'est la fin de ce journal coordonné par Jordan Blaise Ndani Kambala sous la supervision éditoriale de Martin Sebujangwe. Polydor Basunga a assuré la mise en onde et la présentation de Grâce Amzati Masanzi. Merci de nous avoir écoutés.